La période qui va de 1971 à 1974 est un moment charnière pour le système carcéral français. Cette époque, agitée par une multitude de mouvements, révoltes, mutineries, qui se développent et s'enchaînent dans quasiment toutes les prisons, aboutira à la refonte du système judiciaire et pénal en 1975. Ne serait-ce que durant l'été 1974, la chancellerie dénombre 89 mouvements, 11 prisons totalement ou partiellement détruites et 7 morts. Par l'ampleur de leur révolte, les prisonniers tentent de briser le silence auquel ils sont condamnés et imposent leur critique du système carcéral et judiciaire, aussi bien au niveau de leurs conditions de détention que du sens profond de l'enfermement. Tout en menant des actions collectives allant du refus de remontée de promenade à la destruction pure et simple de la prison, les prisonniers élaborent des plateformes de revendication. Ces dernières, pour être connues de l'extérieur, sont criées depuis les toits des bâtiments, puis sont enfin relayées par la presse. Le texte qui suit est un exemple de ces revendications élaborées par un collectif de prisonniers de Fleury-Mérogis.
Sommes-nous de la racaille, des bandits de grand chemin, des bêtes de la pègre? À travers la radio et la presse, nous sentons que les Français ignorent tout du monde pénitentiaire et de sa population. En janvier 1974, des détenus de la prison de Fleury-Mérogis ont formé une association, le Comité de Résistance Interne, Coréine. Notre but est de faire connaître à l'opinion publique ce qu'est la prison en 1974. Depuis la mi-juillet, on assiste à une explosion de violence et de contestation. Toutes les centrales et maisons d'arrêt de France se révoltent. Pourquoi soudainement une population que l'on ignorait en arrive à brûler ses établissements, à crier sa colère, à s'affronter aux forces de l'ordre? Il faudrait des heures pour énoncer tout ce qui ne va pas au sein des prisons. Si Fleury-Mérogis est une prison neuve, tout le reste est vieux, vétuste et insalubre. Nîmes, qui par exemple a été quasiment ravagée ces derniers jours, était une prison cage à poules, c'est-à-dire avec des bâtiments résistant aux années par la grâce du Saint-Esprit. Chaque détenu vivait dans une pièce grillagée de 2 mètres sur 2, couché sur une paillasse jetée dans un coin, dans une saleté indescriptible. Il faut donc savoir que toutes les prisons sont des bâtisses datant des siècles passés. Alors, en 1968, on a ouvert Fleury-Mérogis, dans l'espoir de supprimer Fresnes et la Santé. Malheureusement, il s'est avéré que Fleury ne suffirait pas, et l'on a gardé les deux autres. À Fleury, on s'est dit « Le progrès, c'est de faire une prison où tout sera automatique. » Résultat, la prison s'est robotisée. Pour ouvrir une porte de cellule, le surveillant appuie sur un bouton. Pour parler, on se sert d'un interphone. Conséquence, il n'y a aucun contact humain. Fleury a enfermé des hommes dans une cage électronique. D'autres problèmes sont très importants. La solitude. La majeure partie de la population est inoccupée. Autrement dit, la promenade terminée, nous restons 22 heures ou 23 heures enfermés dans une cellule. Aucun organisme n'est capable de résister à un tel isolement carcéral. On se suicide beaucoup dans les prisons. Le travail. Certains détenus ont la possibilité de travailler, soit pour l'administration, soit pour un concessionnaire. Ceux qui travaillent en atelier ou en cellule pour un concessionnaire ont un salaire mensuel allant de 100 francs à 300 francs. Donc l'administration profite honteusement du travail des détenus. En outre, n'oublions pas que ce salaire est diminué de 3 dixièmes pour les prévenus et de 6 dixièmes pour les condamnés. Autrement dit, un travailleur ne touche qu'un salaire dérisoire. Les parloirs. Un prévenu a la possibilité de voir sa famille de 1 à 3 fois par semaine pendant une demi-heure. Un condamné, une seule fois. Un parloir, c'est une pièce immense où détenus et familles se rencontrent dans un brouhaha inimaginable. La famille est assise sur un tabouret, le détenu sur un morceau de pierre scellé, et entre les deux, une grille, un carreau. Imaginez un peu lorsque nous sommes derrière ce carreau, dans l'impossibilité d'embrasser sa mère, sa femme, ou de serrer son enfant dans ses bras. 30 minutes de bonheur, mais aussi 30 minutes de calvaire. L'un et l'autre interrompus par un surveillant qui s'amusera du drame de la séparation et vous refusera 5 minutes de plus. La censure. Il est certain qu'en 1974, on peut écrire, correspondre avec l'extérieur et la famille, mais au prix d'une censure. Que celui qui lise ceci se demande s'il admettrait qu'un tiers, un maton, lise son courrier. À l'heure où l'on parle de respect de la vie privée, de chacun, dans les prisons, on s'ingénie à venir fouiller notre vie. même pas la possibilité d'être en contact intime avec son correspondant. Le prétoire. Avec le mitard, cette institution reste à nos yeux la plus ignoble. Le tribunal dans les prisons. On va au prétoire lorsqu'un maton en a décidé ainsi. Les hautes instances de la prison sont là, assises devant vous. Trois ou quatre personnes, visages méchants, vous détaillent comme une pièce de tissu. Une feuille de papier est placée devant vous. C'est le rapport, l'acte criminel que vous avez commis et qui justifiera une condamnation. Seuls devant ces juges, comment pouvons-nous croire que nous ne sommes pas condamnés d'avance? Le mitard, le cachot, la prison dans la prison. Pour mieux comprendre ce système concentrationnaire, décrivons le mitard de Fleury. C'est au quatrième étage du bâtiment Détroit. Environ 100 cellules de 2 mètres sur 1. Sans fenêtres, sans aération, des WC repoussants de saleté, et rien d'autre sinon l'emplacement d'une paillasse offerte pour la nuit. Des hommes punis peuvent y vivre pendant 45 jours, sans visite, sans parloir, sans courrier, dans la solitude et la crasse la plus complète, avec seulement une petite promenade dans une courette tout aussi isolée de 5 mètres sur 2. 7 pas dans un sens, 7 pas dans l'autre. 7 pas dans un sens. Les grâces. Lorsqu'un premier mouvement de révolte s'est déclaré en 1971, notamment à Toul, l'administration pénitentiaire a institué un système de grâces avec lequel elle espérait bien tenir à sa main les détenus. C'est ainsi que 3 mois de grâce par an sont prévus pour tout condamné. En fait, le principe est tout autre. Lors de votre incarcération, l'administration vous avertit que si vous êtes un garçon calme, elle s'arrangera pour que la grâce soit appliquée. Honnête, direz-vous. Mais être calme ici a un sens particulier, qui fait que nous avons appelé ce système le bâton et la carotte. Autrement dit, cela signifie pour nos gardiens, bouge pas, tais-toi, sois poli, rampe, rampe, mais si tu bouges, plus de grâce. La conditionnelle. Prenons un exemple. Un primaire a été condamné à 3 ans de prison ferme. La loi stipule alors qu'à la moitié de sa peine, la conditionnelle est étudiée, c'est-à-dire que l'on juge si vous êtes apte à être libéré avant la fin de la peine, sous condition. Une commission pénitentiaire et judiciaire étudie la possibilité d'une conditionnelle, seulement cela demande entre 3 et 6 mois. Ensuite, seulement si un avis favorable est émis, c'est le ministère qui propose une date de libération. Là encore, les délais d'attente sont aussi longs. Résultat, votre conditionnel est de 2 mois au lieu des 18 mois en théorie. Et jamais une explication n'est donnée sur des délais aussi longs. Hygiène. Quand on vit dans des bâtiments ancestraux, la population pénale est doublée d'une population animale grouillante. Si le temps des rats dans la soupe est fini, celui des cafards et des morpions demeure réalité quotidienne. Le linge de corps est changé une seule fois par semaine, les draps une fois par mois. Et avec cela, il n'est possible d'avoir qu'une douche par semaine quand il en a. Et quand cela marche. Service médical. De nombreuses polémiques ont déjà eu lieu entre détenus et médecins, car nous ne trouvions bien souvent chez ces gens que le souci d'être au service de l'administration pénitentiaire et non des détenus. Ce que nous revendiquons? Pas de la pitié comme on le laisse croire. Non, simplement de ne pas être exclu de la société pendant la détention et après la détention. Certains journalistes de l'information écrite et parlée ont tenté d'amener l'explosion à un degré de bassesse inadmissible. À la santé, on se révoltait pour avoir la télévision en couleur. À Chalon-sur-Marne, parce que les pâtes étaient collantes. C'est honteux, et nous le crions. Nos revendications se situent à un échelon beaucoup plus intelligent, et nous allons le prouver. Des milliers d'hommes vivent en prison et restent marqués toute leur vie pour des délits mineurs que la loi condamne à quelques jours ou quelques semaines de prison. Pourquoi ne pas donner sa chance à celui qui a commis cet acte autrement qu'en croupissant entre quatre murs? Donc, il faudrait laisser en liberté provisoire tous ceux qui sont aujourd'hui passibles de la correctionnelle pour délits mineurs. De 30 000, la population pénale descendrait à 15 000. Libre ou incarcéré, celui qui travaille est un ouvrier. Alors à travail égal, salaire égal. Il faut mettre fin aux abus des concessionnaires et de l'administration. En prison comme ailleurs, nous payons nos cigarettes, notre bière, nos journaux. 9 détenus sur 10 sont issus d'un milieu urbain, pauvre et ouvrier, dont l'instruction est superficielle et la formation professionnelle inexistante. Pourquoi donc ne pas créer des classes d'enseignement et de formation professionnelle au sein des prisons? Cela permettrait à celui qui est libéré d'avoir appris un minimum au lieu de sortir totalement délaissé, sans savoir où aller et comment vivre. Si un détenu sur 2 est récidiviste, c'est exclusivement en raison de l'abandon total dans lequel on le laisse. Au sein des prisons, notre première revendication est l'abandon de l'univers carcéral et de la solitude. La réforme doit développer les rapports humains. Pour cela, il faut créer des activités pour ceux qui n'étudieront pas et ne travailleront pas, c'est-à-dire pour plus de la moitié de la population. Être en prison ne doit plus vouloir dire vivre comme une bête recluse. Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir des terrains de sport, des salles de jeux, de lecture? La censure du courrier aux familles doit être totalement abolie. Rien n'est plus normal que de pouvoir écrire sans être décortiqué par des matons. Nous ne sommes pas des espions. La possibilité de parloir libre doit être dès aujourd'hui étudiée. Il est inadmissible et inhumain de rester des mois ou des années sans pouvoir embrasser sa femme ou caresser son enfant. Dans l'immédiat, nous demandons à ce que les parloirs aient lieu tous les jours et qu'ils soient portés à une heure. Nous demandons à ce que tous les livres et les journaux soient autorisés sans aucune restriction, que chacun ne soit pas contraint de se laisser mourir de faim pour obtenir ce droit, comme notre camarade Patrick Noulet. Une fois pour toutes, les grâces conditionnelles et semi-libertés doivent être clairement et correctement offertes à chacun. Nous demandons que tout détenu ait droit à 3 mois de grâce par an, sans qu'il soit nécessaire de ramper devant l'administration, que la conditionnelle soit étudiée dans des délais brefs, et enfin, que les semi-libertés soient permises à tous ceux qui ont du travail et qui souhaitent le reprendre pendant l'incarcération. La prison ne doit plus être un lieu de répression. Un maton n'est pas un CRS. S'ils ne veulent plus être insultés et méprisés par les détenus, ils devront nous considérer comme des hommes, et non plus comme du bétail. Le mitard doit être définitivement aboli. Le régime nazi est mort en 1945, et des lieux concentrationnaires comme le mitard ne doivent plus exister. Souhaitons que nos cris d'espoir et de désespoir aient été entendus. Sinon, rien ne garantit que la révolte ne reprendra pas. Le Coréine.
Ce texte a été publié en septembre 1974 dans le journal des prisonniers du CAP. Le CAP, Comité d'action des prisonniers, créé en décembre 1972, sera une des expressions de l'auto-organisation des prisonniers. Dans un autre numéro, viendra s'ajouter aux revendications régulièrement exprimées, cette dernière.
Suppression de la prison. Ce point-là, amis, copains, camarades de toutes les tôles de cette foutue société, le Comité d'action des prisonniers a presque failli l'oublier, tant il semblait évident qu'il représente le point capital de notre opposition à l'emprisonnement comme forme de châtiment, de même que nous sommes contre les contraintes qui tentent à briser l'individu pour l'intégrer de force dans un moule social où ne se trouvent à l'aise que des hommes assez bêtes, à tous les sens du terme, pour aimer à marcher à quatre pattes. Ce disant, nous songeons à l'asile, à l'armée, à la plupart des collèges, à la majorité des familles et bien entendu aux usines, ainsi qu'à toutes les autres machines à broyer et à abrutir que l'on pourrait l'espace d'un instant oublier, la télévision par exemple. Ce point 12, conclusion majeure de notre manifeste, nous ne pouvions le passer sous silence sans risquer de laisser croire, à la lecture des 11 points précédents, que le comité d'action des prisonniers ne cherche rien d'autre qu'un aménagement des prisons actuelles. Ne paraître désirer qu'une amélioration de ces hauts lieux de la répression, ce serait tout simplement nous couper de la réalité en oubliant notre seule raison d'exister. Amis, copains, camarades, il est temps de s'unir, de refuser la culpabilité à sens unique dont nous chargent les pontes légalistes de cette société. Unissons-nous avec tous les exploités, tous les emprisonnés, ouvriers, immigrés, orphelins, handicapés, internés, etc. Ne cherchons plus à aménager nos conditions de survie. Refusons-les. C'est pourquoi le comité d'action des prisonniers appelle à un regroupement tous ceux qui n'entendent plus subir, mais qui désirent se battre.
Le gouvernement adopte en 1975 une large réforme pénitentiaire. Certaines des revendications des prisonniers aboutissent. Abolition effective des cages à poules, autorisation de la presse et du courrier sans limitation dans leur nombre, mais la censure reste effective dans les deux cas. Autorisation de la radio en cellule et de la télévision en salle collective, assouplissement des conditions d'obtention des parloirs et hausse de leur fréquence, baisse du prélèvement de l'administration pénitentiaire sur les salaires. Mais ces quelques améliorations des conditions de détention arrachées par les luttes restent précaires et incertaines dans leur finalité. Par exemple, les parloirs sans hygiaphone accordés en 72 sont à nouveau supprimés en 75 et la plupart de ces revendications sont encore exigées lors des révoltes actuelles. Chaque amélioration peut également devenir un moyen de pression, de chantage et être retirée à tout moment par des sanctions disciplinaires. Mais surtout, la réponse de l'État à l'explosion des prisons de 71 à 74 et la création des quartiers d'isolement en 72 et des quartiers de haute sécurité en 75. Ces véritables lieux de torture blanche ont pour objectif de briser, d'isoler toutes les personnes révoltées et d'étouffer ainsi la moindre tentative d'organisation. La décennie qui suivra sera cependant marquée par de très nombreuses luttes contre les QHS. Ils seront abolis en 1982, mais les quartiers d'isolement, en tout point identiques, existent encore.